Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et quelle belle nouvelle nous avons reçue il y a quelques temps. Et ben le tout premier train à hydrogène vert en Amérique du Nord va circuler entre Québec et la très belle région de Charlevoix et ce à compter de juin 2023, donc directement dans la saison estivale. Et ça, c'est un projet pilote qu'a annoncé le gouvernement du Québec, le premier ministre Legault, le ministre Fitzgibbon, qui est ministre de l'Énergie, ministre du Développement économique, ministre responsable de la région de Montréal, avec nul autre que Alstom. Et c'est une contribution gouvernementale de 3 millions de dollars d'un projet qui est globalement évalué à 8 millions de dollars. Donc, on va y faire l'essai de ce train à hydrogène vert pendant 3 à 4 mois, pour voir son efficacité, pour voir sa fiabilité. Et peut-être c'est un début d'un renouveau de notre capacité ferroviaire. Peut-être aurions-nous bientôt un réseau de trains qui est vert, qui roule à l'hydrogène vert et qui va pouvoir contribuer à la décarbonisation de nos transports. C'est une excellente nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Et ça démontre qu'on est peut-être capable, après tout, d'avoir des projets de développement, des projets d'infrastructures qui peuvent s'inscrire dans la mouvance actuelle de décarbonisation des transports et de diminution de notre empreinte carbonique dans ce monde que l'on essaie de protéger. L'environnement peut finalement rimer avec transport, peut rimer avec développement des régions, peut rimer avec occupation du territoire. Et ça, c'est dans notre intérêt à tous.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Le chef du Bloc québécois, François Blanchet, a donc rencontré Amiral El-Rawabi, ce mercredi et en est ressorti. On a vu qu'elle, elle s'est excusée. Mais visiblement, ça n'a pas eu l'effet escompté où on se disait que peut-être que François Blanchet va dire ben c'est correct, les excuses, on va les prendre puis on va passer à autre chose. Eh ben non, il réclame sa démission. On en parle avec Martin Champoux qui est porte-parole en matière de laïcité, valeurs québécoises et vivre ensemble pour le Bloc québécois. Bonjour Monsieur Champoux.
Bonjour Madame Abdel-Fadel.
Dites-nous déjà la rencontre, comment s'est-elle passée? Quels étaient les éléments qui ont été discutés durant cette rencontre?
D'abord, c'est une rencontre qui s'est passée sur un ton extrêmement cordial. Je n'entrerai pas dans le détail de la conversation. Je peux vous dire qu'on a échangé sur nos visions respectives de la société québécoise. On a aussi discuté avec Mme El-Gawabi de la situation, parce que évidemment, on ne peut pas cacher l'éléphant dans la pièce dans le contexte actuel, dans l'actualité présente. Bref, nous avons abordé ces sujets-là avec elle, sur un ton très cordial. Ça a été un échange qui a été très poli, très agréable. Moi, je considère que Mme El-Gawabi est une femme agréable et c'est une interlocutrice intéressante. Et j'ai bien l'intention, d'ailleurs, de continuer à discuter avec elle dans le futur, quels que soient les chemins qui seront les siens.
Mais cette discussion aussi cordiale a-t-elle pu être? Elle n'a pas réussi à convaincre François Blanchet et visiblement vous-même. Quelle a la crédibilité nécessaire pour avoir ce poste-là? Vous continuez de réclamer sa démission. Qu'est-ce que Mme El-Rawabi aurait pu exprimer durant cette rencontre qui vous aurait fait reculer de cette position?
C'est pas tant quelque chose qu'elle aurait pu exprimer dans cette rencontre que le fait que les propos qui ont été tenus sont assez importants pour qu'on s'en préoccupe. Euh, et, Et je pense qu'avant d'accéder à un tel poste, avant d'obtenir une telle nomination, il y aurait eu une nécessité d'avoir une bien meilleure connaissance de la société québécoise, de l'histoire du Québec et des valeurs sur lesquelles les Québécoises et les Québécois se basent pour leur vision du vivre ensemble et pour la façon dont leur société doit être menée, particulièrement en ce qui a trait à la laïcité de l'État. Je pense que c'est un concept qui semble être incompris ou mal compris avec bonne ou sans bonne volonté, ça doit dépendre des cas, mais il y a, je pense, une nécessité d'avoir une certaine compréhension de tout cela avant d'accéder à un poste qui vise justement à créer des ponts entre les communautés.
Est-ce que vous pensez que le poste en question est un poste nécessaire pour lutter contre l'islamophobie? D'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez l'existence même de l'islamophobie?
Je crois qu'il y a, comme partout au Canada, partout en Amérique du Nord, des Québécois qui ont une qui sont islamophobes. Il y a des racistes, il y en a partout. Il y en a au Québec, il n'y en a pas plus au Québec qu'ailleurs.
Évidemment.
Est-ce que nous, oui, non, tout à fait. Je pense qu'il faut le reconnaître, puis c'est important. Puis le Bloc québécois s'engage aussi à combattre l'intolérance, le racisme sous toutes ses formes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important de rappeler et de souligner. Alors, on n'est pas contre cette intention-là de créer des ponts. Bien au contraire, on en est. Moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on ait des discussions et qu'on maintienne un dialogue, parce que je dis souvent que si on laisse les choses qui nous divisent prendre toute la place, on met de côté les choses qui sont de nature à nous unir, et ces choses-là sont beaucoup plus nombreuses que celles qui nous divisent. Alors, il faut pas rompre les liens, il faut pas arrêter de vouloir bâtir et de maintenir ces liens-là entre les communautés. En ce sens, l'idée de ce poste pourrait être bonne si elle n'avait pas été politisée, si elle n'avait pas été instrumentalisée par Justin Trudeau, qui l'a clairement créé et qui a désigné Mme El Gawabi dans ce poste-là avec l'intention de pointer les Québécois et de pointer la loi sur la laïcité de l'État, qui est encore une fois de façon très malsaine associée à de l'islamophobie ou à un quelconque racisme ou un sentiment anti-musulman des Québécois.
Quel profil devrait avoir une personne pour occuper ce poste? Est-ce qu'elle doit, par la force des choses, venir du Québec pour être bien au fait des sensibilités du Québec, de faire les nuances, de connaître notre histoire, de connaître nos valeurs et la manière avec laquelle nous, on vit ici au Québec?
Mais d'abord, la pertinence même de ce poste-là, on la remet en question. Je pense que le fait que Justin Trudeau veuille créer ce poste-là, l'intention qu'il a en créant ce poste-là, qui est une intention de, je dirais, de promotion du multiculturalisme, en soi, on n'adhère pas à ça.
Je veux qu'on revienne sur ce que vous venez de dire. Pourquoi la lutte à l'islamophobie serait une question de promotion du multiculturalisme, n'est pas juste une question de lutte contre la haine?
Là, effectivement, vous avez un très bon point. C'est là que je dis que le poste comme tel aurait une pertinence s'il n'avait pas été instrumentalisé par Justin Trudeau, qui souhaite, lui, faire la promotion de ce concept de multiculturalisme, de cette vision de société qui est celle du Canada et qui n'est pas celle du Québec, qui n'est pas le choix du Québec. Au Québec, on a choisi quelque chose qui est différent. On a choisi un autre modèle de société qui se base sur la laïcité de l'État et qui sépare depuis bien avant l'arrivée même dans notre société du terme islamophobie. Dans les années 60-70, quand on a sorti la religion, quand on a sorti de l'église de nos écoles et de la gestion de l'État, on ne parlait pas d'islamophobie à cette époque-là. Alors, c'est un concept qui date de bien avant et il y a une différence de point de vue importante entre le Canada et le Québec là-dessus. Et je pense que ce n'est pas compris.
Mais Monsieur Champoux, permettez-moi de faire la réflexion suivante. Il me semble que la lutte à l'islamophobie n'est pas incompatible avec l'interculturalisme, qui est le mode de gestion de la diversité que l'on s'est donné comme valeur, comme modèle de gestion ici au Québec. Je ne vois pas comment ça rentre en contradiction, la lutte à l'islamophobie, avec le modèle de gestion qui est l'interculturalisme qu'on a choisi au Québec.
Alors, parlons d'abord du fait de la lutte contre l'islamophobie, avec laquelle nous sommes, je le rappelle, tout à fait d'accord, tout à fait en faveur. Je suis le premier à tendre des perches, à tendre la main pour qu'on puisse garder un dialogue malgré, comme je le disais tout à l'heure, les choses qui nous divisent. Mais si on veut que les différentes opinions s'assoient à une même table pour débattre, pour discuter, il ne faut pas présumer que l'une des deux parties a tort d'emblée.
Bien évidemment.
Alors, si on nomme quelqu'un Alors, si on nomme tout de suite quelqu'un en tenant pour acquis que la loi 21 est une loi discriminatoire, que la loi 21 est une loi anti-islam ou anti-musulman, ben on part tout de suite avec un biais qui ne rend pas la suite des choses productive. Alors, à votre question que vous m'avez posée un petit peu plus tôt, oui, pour un poste où on souhaite que la personne crée des liens, bâtisse des ponts, il aurait été préférable que cette personne-là ait affiché une neutralité. Je ne dis pas de ne pas avoir d'opinion, là. C'est très correct d'être contre la loi sur la laïcité de l'État, c'est très correct d'être en faveur de la loi sur la laïcité de l'État. Mais ce qui aurait été correct dans la nomination, ça aurait été d'avoir quelqu'un qui ne s'est pas prononcé avec autant de violence dans certains propos.
On est d'accord.
Contre. Voilà. Alors, il y a comme deux volets là-dedans. Il y a d'abord l'instrumentalisation de ce poste-là qui pointe le Québec comme étant fautif dans sa vision de la laïcité de l'État et la nomination d'une personne qui a tenu des propos qui ne sont pas de nature à rassembler les partis vers un dialogue cordial.
Martin Champoux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes porte-parole en matière de laïcité, valeurs québécoises et vivre ensemble pour le Bloc québécois.
Merci à vous. Après-midi.
Ex-conseillère politique, et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
Les États-Unis qui se cognent encore la tête sur le plafond de verre. Alors, ce plafond que l'on repousse à chaque fois, que les États-Unis doivent repousser, rehausser à chaque fois. Guillaume Lavoie, ben encore une fois, on parle de ce plafond de la dette que les Américains devront rehausser après moult discussions politiques.
C'est fascinant, ce dossier-là. Alors, vous savez, au Québec, il y a des choses qui reviennent, c'est la couleur de la margarine. Aux États-Unis, c'est encore plus triste, c'est le plafond de la dette. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, le plafond de la dette, puis pourquoi on s'y cogne la tête? C'est il y a une énorme hypocrisie dans tout ça, là. C'est-à-dire que les élus, surtout au Congrès, pour se donner bonne conscience, disent, bon, ben le gouvernement américain, là, vous pouvez emprunter, mais jusqu'à un niveau X. Et ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le plafond de la dette, c'est-à-dire que les États-Unis, le gouvernement américain, dans la loi qui est présentement dans les livres, dit vous pouvez emprunter jusqu'à 32 trillions de dollars. Et juste pour se donner une idée, là, parce que des chiffres comme ça, ça devient tellement énorme qu'on peut plus vraiment bien les saisir. Yasmine, juste quelques petits parallèles, là. Si on prenait des secondes, 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. Ça dure 11 jours et demi. 1 milliard de secondes, c'est 32 ans. Et 1 trillion de secondes, c'est 32 000 ans. Alors, ils sont pas à veille de finir de la payer la dette. Au Canada non plus, là, là-dessus, quand on se compare, on se console pas du tout. Et le pire, c'est quand, moi, je donnais des conférences sur le système américain, Obama était président. C'était pas des lunes, là, c'est pas Mathusalem. Il y avait l'Internet dans ce temps-là. Le plafond de la dette était à 16 trillions. Wow. Aujourd'hui, il est à presque 32. Alors, il y en a qui se sont amusés avec la carte de crédit, soit dans des dépenses beaucoup plus grandes, mais aussi à chaque fois que le gouvernement envoie dans l'économie des baisses d'impôts qu'il finance avec la dette, c'est un peu ça que ça donne.
Ou qu'il y a une pandémie.
Alors, il y a eu la pandémie, mais c'est pas la part du lion là-dedans.
Ah oui.
Mais fondamentalement, le plus grave, c'est l'hypocrisie de la chose, parce que c'est pas comme si le Congrès avait dit, ben là, vous avez emprunté, vous ne l'avez pas dit, là. Toutes les dépenses qui sont allées gruger dans la marge de manœuvre jusqu'au plafond de la dette ont toutes été approuvées par les républicains et les démocrates. Alors, en gros, on a un Congrès qui approuve toutes les dépenses, puis après ça, vient jouer aux vierges offensées en disant, c'est donc terrible, le gouvernement dépense comme si c'était, comme on dit en anglais, là, un marin en permission qui a trop bu, et là, pour remettre un peu de sérieux dans l'équation, ben je vais refuser d'augmenter le plafond de la dette, sauf que ce sont des dépenses déjà engagées, un peu comme si vous signez votre hypothèque, c'est trop gros au goût de votre conjoint ou de votre conjointe, ben dis, ben écoute, moi là, je renouvelle pas l'hypothèque, arrange-toi avec tes troubles. Ben là, un instant, là, ces dépenses-là ont déjà été associées, et la raison pour habituellement, voici comment ça marche toujours, Yasmine. C'est Il y a un meeting là, qui finit à la 11e heure, à minuit moins 3, puis là, on finit par tout voter, parce qu'on ne peut pas se permettre, parce que si je ne peux pas emprunter plus pour faire face aux dépenses qui viennent, là, par exemple, payer le prochain paiement d'hypothèque, rembourser les créditeurs à l'étranger, ben, ça voudrait dire que les États-Unis seraient en défaut de paiement. C'est pas génial, ça, dans la réputation internationale. Et quand le géant de l'économie mondiale est plus capable de payer ses billes, ça tend à créer un petit peu d'inquiétude sur les marchés.
Pour tout le monde.
Alors, normalement, plus personne croit que c'est une vraie crise. Sauf que là, Kevin McCarthy, le patron des Républicains à la Chambre, a fait un pacte avec le diable pour se faire élire Speaker. Et les radicaux républicains ont dit, nous, si tu veux qu'on remonte le plafond de la dette, montre-moi ton plan de réduction de dépenses. Et là, vous allez couper dans quoi, là? Alors, Biden, il dit, moi, je joue pas dans ce film-là parce qu'on n'en sortira jamais. Alors là, on a une vraie tragédie à l'américaine, là, un genre de un film spaghetti, là. On se fait face, et là, qui va flancher en premier des deux? Ça va être intéressant, mais c'est un test. Pas tant pour Biden, c'est un test pour McCarthy. Si t'es le patron d'un groupe qui te suit pas, t'es juste un gars qui prend une marche. Fait que c'est-tu lui le patron des Républicains ou pas?
Excellent.
Et c'est ça qu'on va voir dans le film du plafond de la dette, Yasmin.
Revenons au dossier ukrainien et on voit que l'Ukraine, évidemment, est toujours en train de réclamer plus d'armes, des armes plus sophistiquées, des armes plus modernes. Alors, on passait des chars, maintenant on veut des avions pour pouvoir se défendre dans les airs. Et là, Moscou commence à dire que les alliés de l'OTAN, les Américains, les Britanniques, ben, ils font une guerre par procuration à la Russie. À quoi va mener ça va mener ce conflit, puis le fait que l'on équipe à chaque fois un peu plus l'Ukraine, quand est-ce que ça va s'arrêter?
Mais d'abord, cette guerre-là, présentement, c'est l'inverse thermique de la cigale et de la fourmi. Hein. Vous vous souvenez de l'histoire de Jean de La Fontaine? Alors, c'est l'été, c'est le fun, la cigale n'arrête pas de chanter. Pendant ce temps-là, la fourmi, elle travaille, elle ramasse des provisions, elle se prépare pour l'hiver. Puis le rendu à l'hiver, la cigale dit, ben, pourrais-tu m'aider? Puis la fourmi lui dit, ben, chantez maintenant. Arrange-toi que t'es troubles. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pendant l'hiver, les choses sont calmes. Il pleut des missiles, mais on n'est pas du tout dans les niveaux de combat qu'on verrait normalement en d'autres périodes de l'année. On le sait, les Russes se préparent. Ils mobilisent des troupes, des armes. Alors, les Ukrainiens doivent faire la même chose, là. Il faut qu'ils renchérissent. Et ça va être beaucoup plus dur. Il y a quelque chose d'infiniment dans la comptabilité morbide. Il y a quelque chose qui est au désavantage de l'Ukraine. Si, par exemple, les Russes perdent 10 000 soldats, ben, il y a pas mal plus de Russes sur la planète mobilisables pour aller se battre aux ordres de Vladimir Poutine qu'il y a d'Ukrainiens qui existent sur la planète pour aller se battre aux ordres du gouvernement ukrainien. L'Ukraine est un pays plus petit que la Russie, moins nombreux que la Russie. Alors, à mort égale, c'est comme si le pourcentage de pertes chez les Ukrainiens était plus grand. Puis, il y a un déséquilibre de qualité. Vladimir Poutine, il mobilise, c'est-à-dire, il oblige, il vide les prisons et il embauche des mercenaires pour aller se battre en Ukraine. C'est pas la même chose qu'une armée professionnelle, par exemple, ce que vous avez un peu plus en Ukraine. Donc, les soldats ukrainiens sont mieux entraînés, mieux, plus professionnels. Alors, si deux soldats de chaque côté meurent, la perte en qualité, en technique, en entraînement, elle est plus grande du côté ukrainien. Et ça, c'est un peu troublant pour la suite. Alors, c'est le temps, là, de faire la fourmi et de travailler encore plus fort pour se préparer pour l'hiver qui sera l'été, c'est-à-dire le conflit qui va avoir un nouveau niveau de violence.
Mais Guillaume, n'y a-t-il pas une menace de globalisation du conflit et que l'on se retrouve en guerre? À quel moment ce point de bascule, on va l'atteindre ou cette guerre par procuration va devenir une guerre globale?
Moi, je pense qu'on y est déjà. C'est une guerre globale, mais avec un terrain de jeu local, ou un champ de bataille local. Et tout le monde sait que s'il dépasse des limites du terrain de jeu, personne n'est sûr de ce que ça va donner, ou le niveau de destruction serait trop grand. Il n'y a pas une once de tolérance du côté chinois, par exemple.
Non.
C'est un peu le géant qui dort dans l'histoire, pour que Vladimir Poutine décide d'attaquer un territoire de l'OTAN. territoire de l'OTAN, ce serait aussi une réplique directe et extraordinairement lourde. Vladimir Poutine peut peut-être se faire croire qu'il peut gagner en Ukraine, mais il peut pas se faire croire qu'il pourrait véritablement tester l'OTAN. Alors, des deux côtés, on se met d'accord que les conséquences et les implications de ce conflit-là sont clairement mondiaux, globaux, mais que le terrain de jeu ou le champ de bataille, lui, doit rester dans les frontières de l'Ukraine et un peu du côté russe, là, près de la frontière où il y a des bases. Et les deux ou tous les camps ont intérêt à ce que ce ne sorte pas véritablement de ce cadre-là. Mais ce qui est fascinant là-dedans, Yasmine, c'est combien l'histoire, ça se répète, là, des fois tristement.
Oui.
Si vous lisez la rhétorique russe de la Deuxième Guerre mondiale, je pourrais prendre ces phrases-là et les copier-coller dans la rhétorique de Vladimir Poutine. Parce que une des choses qui avait terrorisé les Russes, c'est l'invasion allemande qui n'était pas supposée arriver. Alors, on comprend peut-être les Allemands qui ont un petit problème d'histoire ici, là. Des chars allemands sur le territoire russe ou qui tuent des soldats russes, ça met les Allemands un peu mal à l'aise, mais ça vient réactiver des souvenirs profonds chez les Russes. Et Vladimir Poutine s'en sert. Aujourd'hui, Vladimir Poutine s'en va à Stalingrad, qui s'appelle plus comme ça, mais qui était le point tournant sur le front de l'Est pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est un siège de 200 jours où, à la fin, les Russes ont gagné. Vladimir Poutine essaie vraiment d'inscrire cette bataille-là contre ce qu'il appelle les néo-nazis en disant « On a été attaqué la dernière fois, on a résisté malgré tout et on a fini par gagner. Que chaque camarade tue son Allemand. » Là, c'est que chaque camarade tue son néo-nazi ukrainien dont le chef est de descendance juive, ce qui fait aucun sens. Mais une bonne propagande est souvent déconnectée des faits à plusieurs moments.
Sinon, parlons de vieillissement de la population, Guillaume, et on a vu ce dossier dans le Journal de Montréal qui était très intéressant sur le vieillissement du Japon et les comparatifs que l'on peut faire avec le Québec et l'avenir de notre société d'un point de vue démographique. Ça ne regarde pas bien.
Non, et on dit souvent, il y a trois choses qui comptent dans la vie, le nombre et le nombre. La démographie, et tu sais, moi je pense, Yasmine, qu'on devrait avoir un démographe en chef, comme un officier du Parlement, parce que la démographie, ça mange tous les autres enjeux au petit-déjeuner. C'est la chose la plus déterminante pour tout le reste. Alors, mettons ça de côté, le Québec, c'est la province qui vieillit le plus vite. Et c'est pas des bonnes nouvelles, ça, pour un budget dans un système de santé publique, parce que sur 100 $ de santé que vous allez consommer dans votre vie ou que vous allez coûter dans votre vie, vous allez en consommer ou en coûter 95 $ dans les 5 dernières années de votre vie. Alors, par exemple, moi qui ai eu l'ablation de l'appendice, qui avait eu une jambe cassée ou autre, c'est des peanuts, ça, dans ce que moi, je vais coûter dans ma vie pour le système de santé. Le gros des dépenses, c'est à la fin de notre vie. Alors, les boomers les plus âgés ont 75 ans. Ça a à peine commencé, là. Alors maintenant, remettons ça dans le débat sur les transferts fédéraux en santé, qui sont là normalement pour aider les provinces à offrir des services égaux. À chaque fois que le fédéral refait son calcul, il donne un peu moins d'argent. Mais là, l'enjeu, c'est pas la grosseur du chèque, c'est comment le chèque. Et là, là-dessus, je pense que le Québec devrait réaligner sa stratégie, là. Parce que si c'est encore le calcul de « il faut être égaux envers tous les Canadiens », donc, on donnera de l'argent en fonction de votre population, hein, ce qu'on appelle du financement par capita. Si on fait ça, on oublie que tous les Canadiens ne sont pas égaux entre eux face aux coûts de santé. Ça dépend, ils ont quel âge. Si vous avez une population jeune, ça va être vraiment payant de se faire financer par capita parce qu'il coûte presque rien. Donc, vous allez pouvoir surpayer vos médecins, vos infirmières, etc. Si vous avez une population âgée et vieillissante rapidement comme le Québec et que vous vous faites financer par capita, c'est le début d'un déséquilibre extraordinaire dans les transferts fédéraux au désavantage du Québec. Alors, si on voulait véritablement avoir une politique nationale, il faut se dire, on va financer les dépenses de santé en fonction des coûts. Et les coûts, le plus important dans l'équation, c'est quel est l'âge moyen de vos patients. Alors, si vous avez une population très jeune, ça vous coûte pas très cher maintenant. Si vous avez une population vieillissante, vous êtes dans le gros trouble. Alors moi, je veux pas voir le gouvernement du Québec se battre pour la grosseur du chèque. Je veux qu'on se batte pour une méthode de financement qui sera pas à notre désavantage aujourd'hui, mais surtout pour les prochains 25 ans.
Guillaume Lavoie, merci beaucoup.
Au plaisir.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Eh bien, il y a un discours contradictoire à la CAQ sur l'immigration. Ça sera pas la première fois, mais cette fois-ci, ça porte sur le chemin Roxham. Et le premier ministre ne semble pas être d'accord avec sa ministre de l'immigration, Christine Fréchette. Marie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette contradiction-là et la motion du PQ qu'a essayé le PQ de faire, qu'a essayé de faire voter le PQ aujourd'hui?
Ouais, boboy, hein, il était pas, c'était pas accordé les violons de la CAQ aujourd'hui. Donc là, c'est juste pour qu'on reprenne sur la question du chemin Roxham. On le sait, le gouvernement caquiste a demandé à plusieurs reprises dans les derniers mois au gouvernement à Ottawa que le chemin Roxham soit fermé. C'était la position entre autres de Jean Boulet, l'ex-ministre de l'immigration, François Legault le disait à plusieurs reprises. Puis là, aujourd'hui, la nouvelle ministre, de l'immigration, Christine Fréchette, est sortie avant la période de questions, puis ça s'est fait là, la contradiction, le bing, bang, boom. T'sais, elle sort avant la période de questions. On s'entend, ça dure 45 minutes, une période de questions. Elle fait sa mêlée de presse, puis là, elle dit, ça règle absolument rien de fermer le chemin Roxham. Donc ça, là, on est exactement dans la position de Justin Trudeau. Elle sort de la période de questions, et là, elle est dans un discours totalement autre, il n'y a aucune ambiguïté, où elle dit « Roxham, basta, il faut que ça ferme ». T'sais. Donc là, elle a changé d'opinion bout pour bout. Ben un, ça amène la confusion sur la position du gouvernement caquiste. Là, moi, je pense que ça les affaiblit beaucoup aussi au niveau des demandes qu'ils font à Ottawa, tu sais, parce que on est hyper en demande au niveau de ce que ça coûte, là. Juste, on le voyait là ce matin, juste en aide sociale, on parle de 20 millions de plus d'aide sociale par mois, tu sais, je veux dire, c'est des coûts astronomiques pour le Québec. On est en demande au niveau du gouvernement à Ottawa là-dessus, et tu as la principale intéressée, la ministre de l'Immigration, qui loge pas à la même enseigne que le premier ministre. Donc là, ça, en soi, c'est un enjeu. Puis fie-toi sur moi qu'elle n'a pas de fun aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien de pire quand tu es un ministre puis tu t'es commis publiquement, en plus de ça, de retourner marcher sa peinture aussi rapidement parce que tu as eu un petit appel du cabinet du PM qui disait...
C'est le temps de mettre la patate dans le tube.
Tu ne loges pas à bonne place.
Non, là. C'est ça.
Ouais.
En tout cas, il était quoi? Même pas 8 heures ce matin quand le Parti québécois a fait connaître le texte, le libellé de la motion qu'il était pour présenter. Franchement, là, on pourrait quand même aligner nos flûtes, là. C'était quand même pas un secret, là, ce qui allait venir. Puis la période des questions, ça se prépare. Et il me semble que ce message-là aurait dû être coordonné bien avant. Par rapport au point très précis, là, ça donne rien de le fermer parce qu'ils vont passer ailleurs. Permettez-moi ce petit aparté parce qu'il est très important. Quand Justin Trudeau avait fait son fameux tweet, là, où dans le Canada anglais, on disait, ben, il vient finalement là, d'affaiblir la frontière et tout ça, là, on accueille les gens, on recule en 2018. Il a commencé à avoir un flot de demandeurs d'asile à plusieurs endroits au Canada. Un de ces postes-là, c'était Emerson au Manitoba, une histoire très triste de réfugiés africains qui avaient été retrouvés là, je veux dire, à deux doigts de la mort, des engelures, et ils avaient perdu des membres, tout là. C'était atroce cette histoire-là. Toute la classe politique au Manitoba à ce moment-là, c'était ligué contre le fédéral, ou en tout cas pour faire pression sur le fédéral pour dire ça n'a aucun sens que des gens passent autre part qu'un poste de un poste frontière. Pas question de légitimer un point comme ça qui pourrait devenir, parce que Emerson est en train de devenir un chemin Roxham comme on le voit là. Il commençait à y avoir des centaines de personnes qui prenaient toujours le même chemin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté les doléances des gens là-bas. On a colmaté, on a fermé ça, puis on a dit « ça passera plus ». Il y a encore quelques personnes qui tentent de le faire, mais il y en a toujours eu. Mais pas de poste irrégulier là-bas, on n'a pas voulu. Même chose en Colombie-Britannique. On a pérennisé le chemin Roxham, puis là, ben qu'est-ce qui arrive avec ça maintenant? C'est un immense problème qu'on a pelleté dans le cours du Québec, et le gouvernement devrait être coordonné quand il fait face à Ottawa, parce que c'est très important que le Québec parle d'une seule voix et d'une voix cohérente quand on parle de ce dossier-là. Devrait se faire entendre, comme les autres provinces se sont fait entendre.
Mais Steve, est-ce que le PQ met de l'huile sur le feu quand il demande à ce que la SQ débarque au chemin de Roxham puis qu'il ferme ça rapidement comme ça? Est-ce qu'on est en train de nuire à notre capacité de parler d'égal, de parler avec le fédéral?
Très bonne question, Yasmine. Là-dessus, moi, j'irai pas jusque-là. Je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Franchement, il y a la GRC qui est là. Moi, je vais pas jusque-là. L'important pour moi, c'est que l'Assemblée nationale, le plus possible, en tout cas, le gouvernement et en appui, par exemple, avec le Parti québécois, disent, ben, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ce flot de migrants-là, parce qu'il faut pas oublier une chose. Ce n'est pas terminé. La migration internationale, sous toutes ses formes, va s'accentuer. Si on ne fait pas quelque chose tout de suite pour être capable de mieux redistribuer ça à l'échelle du Canada au complet, on va avoir un problème avec ça. Puis, faut pas que ce soit un problème, la gestion des migrants. Il faut qu'on accueille, puis on va devoir le faire, puis encore plus dans le futur. Mais on peut pas le faire tel que c'est engagé en ce moment. Et cette discussion-là, à Ottawa, on est sourd, puis les autres provinces sont sourdes. Rapidement, là, je vous dirais simplement ceci. On a traité, en 2022, on a réussi à traiter 92 000, c'est Stéphane Anfield, l'avocat en immigration, qui parlait de ces chiffres-là. 93 000 à peu près demandes traitées. Le Québec, là-dessus, donc, 60 000 pour le Québec, 27 000 pour l'Ontario, 4 000 pour la Colombie-Britannique, 2 000 en Alberta, puis 300 au Manitoba. Cette répartition-là est pas juste. Il va falloir qu'on soit capable d'étendre ça et de répartir ça de telle sorte que ce soit vraiment équilibré et juste pour tout le monde au Canada.
Marie?
Ouais, mais moi je reviendrai sur la question sur la motion du Parti québécois. Puis je sais là que c'est de la, tu sais, quand on parle de motion, c'est bien de la poutine interne, tu sais. Mais Steve, il a raison sur quelque chose. Cette motion là, la façon dont ça fonctionne, tu sais, c'est toujours la même affaire. Là. La période de questions est à 10 heures. Les partis politiques sont tous en caucus à 9 heures, puis à 8 heures et quart maximum, les motions doivent être envoyées par les différents partis. Voilà. Depuis au minimum 8 heures et quart ce matin, les leaders ont ça. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe complètement là tu sais, au-delà du changement de position là, il y a quelque part, il y a bien du monde qui l'ont échappé là, parce que à 8 heures et quart là, ça veut dire que leader Simon-Jolin Barrette a reçu en main propre. Puis connaissant le PQ, là, Pascal, il a dû envoyer ça bien avant s'il l'a pas envoyé hier. Là. Comme il dit, c'était des discussions. Il avait déjà pris la décision de déposer cette motion-là. Donc là, tu as le leader qui est seul. La première chose que le leader, il fait, il envoie ça au ministre concerné. Donc, c'est parti directement dans le cours de Mme Fréchette. Elle est revenue en disant, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Bon, moi, je pense qu'elle a probablement dit qu'elle n'était pas d'accord. Là. Puis, il n'est pas question de la SQ hein, dans la motion. Là, juste pour être clair, cette motion-là a vraiment rien de scandaleux. Là. T'sais, elle rappelle que le nombre de passages, qui a atteint 40 000 en 2022, que c'est un dossier qui traîne depuis 6 ans, qui demande au gouvernement fédéral le remboursement des sommes qui sont entraînées par ce dossier-là, puis qui demande au gouvernement fédéral de fermer le chemin. Après, tu es d'accord ou pas d'accord avec fermer le chemin?
Marie, permets-moi, le dernier paragraphe dit aussi, puis c'est important, on donne au gouvernement fédéral une date butoir. On n'a pas besoin de la SQ. Ouais. On veut quand même qu'il y ait un horizon. Voilà.
C'est ça. Puis ça, il demande pas, tu sais, des fois dans des motions, si on veut que ce soit aujourd'hui, demain, là, c'est, on demande un engagement du gouvernement fédéral avec une date sur l'agenda. Ça peut être dans 6 mois, ouais. Tu sais, ça peut être dans 8 mois. Ouais. Il faut qu'il y ait un commitment. Puis là, tu sais, mettons qu'elle, là, a dit, je demande à mon caucus de voter contre. Il y a eu une discussion au caucus, c'est sûr. Tu as tout le temps un point à l'ordre du jour où tu as une discussion qui se fait sur les motions qui sont présentées pour s'assurer que l'ensemble des membres de ton caucus sont à l'aise avec le vote qui va se faire. Donc, comment ça se fait qu'elle sort puis elle dit, ça donnera rien de fermer le chemin Roxham, qu'elle rentre dans la période de questions, que la motion est déposée, mais là que la CAQ n'a pas voté pour, là, la CAQ n'a même pas consenti
au dépôt de la motion
sur... Elle a même pas consenti à la motion. Donc, la CAQ qui dit comme position officielle on est pour la fermeture du chemin Roxham, mais refuse de consentir à une motion du PQ qui demande la fermeture du chemin Roxham, puis t'as Mme Fréchette qui dit qu'elle est contre. Tu sais, je veux dire,
C'est la maison des fous. J'ai l'impression que ça s'est pas. J'ai l'impression que ça s'est pas discuté, que ça commence à être un sujet délicat là, puis ils savent pas comment prendre ça, savent pas sur quel pied danser. Mais il y a quand même une espèce d'unanimité en chambre qui dit que le chemin Roxham, ça a pas de bon sens.
Oui, et non seulement.
On en parlait. Ça...
Vas-y, Marie, vas-y.
On en parlait hier, c'est pareil. Il y a les lignes du jour, ouais. Tu sais. Je veux dire, tu as contribué à ça, Yasmine, en tant qu'écrire des lignes du jour pour un cabinet. C'est sûr que ce matin, encore là, à la lumière de la revue de presse sur le chemin Roxham, ils ont des lignes du jour. Tu sais, les ministres, là, ça sort pas de même en improvisant. Ses collègues vont se faire questionner aussi. Tu peux pas avoir trois positions ou des positions molles. T'es pour ou t'es contre? T'es pour ou t'es contre, ouais, la fermeture, là? C'est vraiment pas très compliqué, là. Mais non, c'est très weird. Là. C'est très
ben, bizarre, parlons, tant qu'à parler d'immigration, parlons des élèves allophones. Ça, c'est les élèves qui viennent dans les dernières vagues d'immigration, qui viennent d'arriver chez nous, qui ne parlent pas français, qui doivent rejoindre des classes habituellement de francisation. Mais il n'y en a pas de classe de francisation du tout. Au moins, il n'y en a pas assez. Et devinez quoi? Ben, ils se retrouvent dans des classes régulières à faire la plante verte parce qu'elles ne ces personnes-là ne comprennent pas, ils n'ont pas suivi les cours de francisation. Et il y a certaines personnes qui lancent un cri d'alarme pour dire, écoutez, on joue avec leur persévérance, ça pourrait être des décrocheurs parce qu'ils accumulent des retards où on ne sait pas si on va être capable de les reprendre. C'est assez dramatique qu'on se soit rendu là alors que le français est tellement important. Steve, est-ce que c'est normal?
Non, c'est pas normal. Puis la francisation au Québec, ça fait longtemps qu'on sait que c'est un problème. Puis quand on parle de francisation au Québec, il faut placer ça dans un cadre plus large, c'est-à-dire que franciser les nouveaux arrivants qui n'ont pas, par exemple, un niveau de français au minimum conversationnel, ça fait partie de notre engagement à conserver l'héritage de Robert Bourassa, parce que c'est lui qui avait fait voter le premier cette loi. Ben, c'est lui qui a fait voter cette loi qui faisait du français la langue officielle du Québec. Donc, si on veut protéger cet héritage-là, ben il faut qu'on s'engage à franciser. Puis, moi, je vous le donne en mille, c'était le 24 novembre 2017, la vérificatrice générale dit, pour la deuxième fois, puis elle va le répéter en 2018, la francisation au Québec est un fiasco, et le rapport de la vérificatrice générale, c'était devenu quasiment aussi prévisible qu'elle dise ça que quand on nous dit, par exemple, que du point de vue de la langue, Air Canada est un multirécidiviste. Mais c'est pas normal que Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale à cette époque-là, continue à taper sur ce clou-là, puis on avait de la difficulté déjà avant les vagues migratoires qu'on connaît maintenant. Donc, je suis pas surpris, moi, qu'on soit pas capable de trouver les professeurs, qu'on soit pas capable d'offrir aux gens qu'on accueille la possibilité d'être francisés. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui arrivent, puis comme c'est pas réparti équitablement, ben c'est difficile quand même, ça met une pression énorme sur les services scolaires, mais aussi sur les services communautaires. Et là, la force de travail, la main-d'œuvre qu'il faut pour être capable, les profs qualifiés ou même des gens qui seraient non légalement qualifiés, mais qui pourraient le faire, on n'y arrive pas. Puis si on n'arrive pas à franciser, quand de l'autre côté, on sait que les problèmes de littératie et d'analphabétisme chronique, là, ou si on veut fonctionnel au Québec, sont vraiment endémiques, ben on a la recette parfaite pour qu'on faillisse sur les deux plans. La francisation, puis notre engagement aussi à combattre les problèmes de littératie au Québec, c'est pas une bonne nouvelle, là.
Marie, très rapidement, il nous reste 15 secondes.
Écoute, quand t'es rendu comme prof à être obligé d'utiliser Google Translate pour parler avec tes élèves, c'est loufoque, c'est triste, c'est épouvantable. Ouais. Mais ça aussi, c'est une démonstration des enjeux du chemin de Roxham. Tu sais, je veux dire, moi, je lancerai pas la pierre au nouveau ministre de l'Éducation sur le fait qu'il est pas capable de planifier ça à l'heure actuelle. Mais c'est très, très, très inquiétant et préoccupant pour notre société.
Marie, Steve, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
C'est un peu passé sous silence avec toute la saga de Damira El-Gawabi, mais il y a quelque chose qui est arrivé hier à l'Assemblée nationale du Québec, qui est très importante pour le quotidien des Québécois, des justiciables. C'était le dépôt d'un projet de loi qui vise ultimement à améliorer l'accès à la justice, l'accès aux tribunaux. Ça a été déposé par le ministre Simon Jolin-Barrette, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Jolin-Barrette.
Bonjour, Mme Abdel Fadel.
Donc, ce projet de loi, on en a très peu parlé dans les médias étant donné l'éclipse médiatique, mais j'espérais pouvoir en apprendre plus sur ce qui vous a animé à déposer ce projet de loi. On le sait que l'accès à la justice est important, mais qu'est-ce que ça va régler concrètement?
Bien, concrètement, on s'attaque aux délais, notamment aux petites créances. Parce que vous savez, les petites créances, là, c'est les dossiers qui passent à la cour sans avocat jusqu'à 15 000 $. On a certains districts judiciaires où la moyenne, c'est 22 mois d'attente avant de pouvoir aller devant le juge. Et même, on a certains districts judiciaires que c'est 3 ans. Donc, en termes d'accès à la justice, d'efficacité de la justice, on avait un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre, en fait, on va inviter les gens à aller en médiation obligatoire et également en arbitrage automatique pour sortir les dossiers du tribunal parce que c'est embourbé, pour faire en sorte que les citoyens québécois aient accès beaucoup plus rapidement à la justice et que le dossier soit réglé beaucoup plus rapidement. Parallèlement à ça, dans le projet de loi également, on simplifie la procédure à la Cour du Québec pour les dossiers entre 15 000 et 100 000 $ avec une procédure qui va coûter moins cher aux Québécois et Québécoises. On diminue le nombre de fois qu'ils ont besoin à la Cour, on diminue les interrogatoires avant le tribunal, on met en place une conférence de règlement à l'amiable obligatoire aussi. Donc, toutes des mesures pour faire des économies pour les citoyens québécois, mais aussi que ça puisse se traiter plus rapidement à la Cour.
Monsieur Jolin Barrette, la question qui me vient à l'esprit, c'est de dire le processus de médiation était déjà proposé. C'était, il me semble, même l'article 1 du Code de procédure civile qui a déjà été retravaillé, il me semble, en 2014. Alors, est-ce que l'on passe de la simple proposition à l'obligation dans le nouveau projet de loi que vous avez déposé?
Oui, vous avez tout à fait raison. Quand le ministre Bertrand Saint-Arnaud avait modifié le Code de procédure civile, on indiquait très clairement que les parties doivent favoriser les méthodes alternatives de règlement des différends. Cependant, dans les faits, on n'a pas une grande utilisation de ces moyens-là. Donc, pour les petites créances, ça va être obligatoire. On va débuter par les dossiers de 5 000 $ et moins, qui représentent près de 50 % des 20 000 dossiers qu'on a annuellement pour créance. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup de monde. Là. C'est 10 000 cas par année qui vont pouvoir aller en médiation obligatoire dès le départ. Et lorsqu'on va en médiation, actuellement, là, on avait déjà un projet pilote là, de 3 heures de médiation gratuite aux petites créances, bien, le taux de règlement est de 60 %. Donc, on veut permettre aux gens là, de participer à la solution de leur litige. Puis la démonstration est faite que lorsque les gens ont un litige et participent à la solution, bien, ils réussissent à trouver des voies de passage. Puis le dossier, dans 60 % des cas, se rend pas à la cour et se règle. Donc, c'est ça qu'on veut favoriser. Et surtout, on le dit souvent, hein, une solution négociée vaut mieux qu'un jugement qui est imposé parce que même si vous allez à la cour et vous gagnez, vous n'allez peut-être pas être satisfait de la décision, tandis que lorsque vous allez en médiation, bien, vous participez à la résolution du conflit.
Il y a aussi, en fait, la question, vous venez d'en parler, il y a eu un projet pilote dans la Cour des petites créances avec la médiation, mais ultimement, qui va payer, maintenant que c'est obligatoire, les frais de médiateur ou d'arbitre?
C'est l'État québécois qui va payer les frais de médiation. Donc, 3 heures de médiation qui va être offerte par l'État québécois. Même chose au niveau des frais d'arbitrage, ça va être l'État québécois, donc ça sera gratuit pour le citoyen. C'est une mesure d'accès à la justice pour, un, que les citoyens puissent avoir un règlement de leur dossier plus rapidement, mais deux, également, ça va nous permettre de dégager les juges pour s'occuper de dossiers d'une valeur plus importante, parce que vous savez, dans le domaine de la justice aussi, on a des difficultés en matière de recrutement de main-d'œuvre aussi, donc ça va nous permettre de nous concentrer sur des dossiers d'une valeur monétaire plus grande.
Donc, les frais, pour avoir déjà fait appel à la Cour des petites créances, les frais que l'on doit inclure, finalement, quand on dépose une requête pour la Cour des petites créances, vont inclure ces 3 heures de médiation et éventuellement d'arbitrage, c'est ce que je comprends bien.
Effectivement. Donc, on appelle ça le timbre judiciaire.
Voilà.
Donc, les médiateurs vont être rémunérés à un tarif de 114 $ de l'heure pour 3 heures, mais ceux-ci seront rémunérés par l'État, comme dans le projet pilote que nous avions actuellement. Et ce qui est important aussi, c'est que on veut inviter les gens vraiment à parce que vous savez, souvent en petite séance, les gens veulent se faire entendre par l'autre partie. Et c'est souvent en réussissant à se parler, à s'asseoir ensemble, qu'on réussit à trouver une solution au litige. Les gens ne souhaitent pas nécessairement qu'une autre partie soit condamnée. Ils souhaitent surtout être entendus par l'autre pour pouvoir obtenir une résolution de conflit.
Est-ce que votre projet de loi inclut une partie sur l'exécution des jugements éventuels? Parce qu'on sait qu'il y a une problématique souvent, notamment dans les cours des petites créances, où il pourrait y avoir un jugement où il y a une rétribution ou une pénalité, mais finalement, la personne qui doit le faire mais ne fait jamais le chèque et il va falloir encore revenir soit voir un autre jugement ou aller voir un huissier, avoir un autre frais. Est-ce qu'il y a une manière de faciliter l'exécution des jugements?
Bien, actuellement, dans le projet de loi, c'est pas prévu. Par contre, on y réfléchit parce que on connaît la problématique que par la suite, vous avez votre jugement, il faut le faire exécuter par la suite. Donc, on travaille et on analyse différentes options pour voir comment ça peut être plus simple pour le citoyen.
J'aimerais vous parler, évidemment, on est à 10 ans après Éric contre Lola et on attendait avant les élections un projet de loi de réforme de la famille. Évidemment, vous aviez déposé la première version, celui sur la parentalité, et là, sur la filiation de manière plus générale. Et on attendait avec impatience et on attend toujours le volet conjugalité. Est-ce que ça avance sur ce plan-là?
Oui, bien, on y travaille toujours, mais à court terme, je vais déposer la deuxième partie de la phase 1 du projet de loi sur le droit de la famille parce qu'à la fin de la dernière session, j'ai dû scinder le projet de loi sur la filiation et notamment la grossesse pour autrui, donc la question des mères porteuses. Donc, on va ramener cette partie-là dans un premier temps. Et puis, vous savez, c'est un travail de longue haleine, la conjugalité, donc la question la vie commune, la protection des conjoints. Donc, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Donc, on continue à le faire parce que c'est quand même un grand changement de paradigme. Alors, faut prendre le temps de bien faire les choses, mais je peux vous dire que je suis au travail. Donc, on va commencer par la deuxième partie du projet de loi que j'avais déposé au printemps dernier. Et par la suite, on va poursuivre nos travaux sur la conjugalité.
Comment se fait-il que ça puisse prendre autant de temps réformer le droit de la famille? On sait qu'il date de plus de 40 ans, notre droit de la famille, qui ne prend pas en ligne de compte plusieurs éléments contemporains. On se rappelle du mémoire et de ce qu'avait rédigé le professeur Alain Roy, un professeur émérite en droit de la famille notamment. On a eu plusieurs commissions là-dessus. Comment se fait-il qu'on n'est pas en mesure d'accoucher rapidement d'une réforme du droit de la famille en 2023?
Ben, écoutez, moi je peux vous dire, je suis ministre de la Justice depuis juin 2020. Donc, j'ai déposé déjà et j'ai fait adopter un projet de loi sur le droit de la famille. Je vous annonce une deuxième phase du droit de la famille. Alors, je peux vous dire que de mon côté, je ne chôme pas. Et puis, je travaille en collaboration justement avec le professeur Roy, qui est mon conseiller spécial. Mais je ne peux pas parler pour les gouvernements précédents.
C'est sage comme réponse, M. Jolin-Barrette. Et pour conclure, j'aimerais savoir quels sont... comment a accueilli le barreau du Québec votre proposition, notamment d'ouvrir la magistrature aux notaires ayant plus de 10 ans d'expérience? Ils semblent être surpris. Est-ce qu'ils sont fâchés au-delà d'être surpris?
Ah ben écoutez, il faudrait leur demander à eux, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le fait d'élargir le bassin de candidats et d'utiliser l'expertise des notaires au sein de la magistrature, nous, on voit ça très positivement parce que, vous savez, la formation juridique pour les notaires, elle est la même au niveau du baccalauréat. Bien entendu, les avocats font le barreau, les notaires font une maîtrise en droit notarial avec la Chambre des notaires et les universités. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas se priver du talent, de l'expertise et de l'impartialité des notaires. Et surtout, on prend un virage là, présentement dans le système de justice. Il faut comprendre ça. On s'en va vers davantage de médiation, de conciliation. Et les notaires sont habitués de conseiller les deux parties et de concilier les gens et d'amener la prévention. Alors, ils siègent déjà dans des tribunaux administratifs, ce sont déjà des décideurs. Moi, je pense qu'on n'a pas le luxe de se priver de toute l'expertise des juristes qui existent au Québec. Et c'est une mesure, je vous dirais, qui nous permettra de renforcer les compétences des magistrats. Vous savez, la diversité, je pense, dans toute profession, c'est une bonne chose qu'on doit miser sur les forces de chacun.
Maître Jolin-Barrette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et venir nous décrire ces changements qui sont très importants pour le quotidien des justiciables au Québec. J'espère que vous allez revenir plus souvent à notre émission.
Ça me fera toujours plaisir. Bonne journée à vous. Merci beaucoup de l'invitation.
Merci beaucoup. Alors, c'était Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, leader parlementaire du gouvernement du Québec et député de Bordua.
joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
187 Cube Radio.
Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver Yasmine Abdel-Fadel, animatrice à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
Alors, dans une entrevue qu'il a accordée à l'animateur Gérald Filion, l'ancien ministre des Finances libéral, Carlos Letang, qui a admis qu'il aurait agi autrement dans le secteur de l'éducation lorsqu'il a dû mettre de l'avant les fameuses mesures d'austérité de 2014 à 2016. On va écouter ensemble la réaction du ministre, de l'actuel ministre de l'Éducation, Bernard Drinville.
C'est bien que le PLQ reconnaisse ses erreurs, mais ça n'efface pas les dégâts infligés à notre système et pour lesquels on ressent encore les effets aujourd'hui. Alors moi, je remercie M. Letao pour sa franchise et sa lucidité. Maintenant, je souhaite que Mme Risky, la porte-parole en éducation du Parti libéral, j'espère qu'elle va en profiter, qu'elle va profiter de l'occasion pour exprimer au nom de son parti les mêmes regrets et pourquoi pas s'excuser au nom du Parti libéral du Québec pour les dommages infligés à l'éducation.
Yasmine, est-ce que Bernard Drinville en demande trop au Parti libéral?
Oui, là, il faut pas reprendre les paroles de Carlos Letao et les attribuer au Parti libéral du Québec. Je ne sais pas si un Martin Coiteux ou un Philippe Couillard partagerait les constats qu'a fait Carlos Letao au micro de Gérald Filion. Donc, c'est Monsieur Drinville faisait de la politique ici, faisait de la politique partisane en voulant reprendre les propos de Carlos Letao et en les mettant dans la figure, finalement, de Marois Risky. Est-ce que les propos de M. Letao sont évidemment curieux? Est-ce que ils font du bien à certains de dire enfin on reconnaît qu'ils sont allés trop vite? Parce que Carlos Letao, il ne dit
pas. Mais c'est rare d'entendre ça d'un ancien ministre, hein? Surtout ministre des Finances.
Mais Carlos Letao nous a habitués d'être très honnête.
Les agences de notation disaient que le Québec devait faire un effort d'austérité.
Bien évidemment, et c'est ça qu'il disait. Il disait dans la même entrevue qu'il avait un effort pour convaincre. Il devait faire un effort pour convaincre les agences de notation de garder la cote du Québec, la cote de crédit du Québec. Et ça passait par plusieurs compressions. Ce qu'il regrette, c'est la rapidité avec laquelle ces compressions ont été faites, et particulièrement dans le secteur de l'éducation. Julie, pendant cette période, je dois te dire que j'étais attachée de presse et porte-parole de Yves Bolduc, qui était ministre de l'Éducation pendant la période des compressions budgétaires. Et ce n'était pas une période facile, même pour les ministres en titre, d'essayer d'expliquer, de justifier la position gouvernementale, la position du ministère des Finances et du président du Conseil du Trésor, qui ultimement a été soutenue par le premier ministre dans le temps, Philippe Couillard. Coupé dans le transport scolaire, dans les bibliothèques, dans les petits déjeuners, c'est pas quelque chose qui enchante n'importe quel ministre.
Qui est souhaitable,
oui. Ministre de l'Éducation, il vient pas, il se réveille pas le matin pour y couper dans ces budgets-là qu'on sait que c'est pour les plus vulnérables. Mais il y avait une réalité économique, une réalité des finances publiques que l'on imposait à certains secteurs sensibles comme celui de l'éducation et de la santé. Est-ce que ça a fait mal? Définitivement que ça a fait mal. On le sait aujourd'hui. On se rappelle aussi que 8 milliards de dollars ont été laissés dans les coffres de l'État qui ont permis à la coalition Avenir Québec de réinvestir massivement en début de mandat à partir de 2018. Est-ce que ça a été assez? Ben, je pense que le mal avait déjà été fait dans les services à la population. Et ça, la population s'en rappelle.
Yasmine, ministère de l'Éducation, ça devrait pas être apolitique, peu importe les gouvernements qui arrivent, que ce soit pas partisan de mettre de l'avant différentes réformes. C'est difficile pour les enseignants, pour les enfants, les différentes générations de toujours s'adapter au nouveau gouvernement.
C'est sûr que idéalement, dans le monde des licornes, le ministère de l'Éducation devrait être un ministère apolitique et neutre, un peu comme le ministère de la Santé. On est en train de parler ici des responsabilités, des missions de l'État les plus primaires, les plus importantes. Elles ne devraient pas être faites au gré des partis politiques et des idéologies, mais il faut de l'imputabilité. Et l'imputabilité, ça vient notamment avec des élections, avoir un élu, quelqu'un que l'on peut sanctionner ou remercier au bout de 4 ans, quelqu'un qui peut perdre son poste s'il n'agit pas correctement. Et c'est là où le rôle d'un cabinet politique, d'avoir un politique à la tête de ce ministère, apporte ce degré d'imputabilité qui est très important. Mais évidemment que lorsqu'on est ministre de la Santé, ministre de l'Éducation et ministre de la Justice, ultimement, on devrait penser aux intérêts de la population, des populations, des audiences et des publics que l'on dessert et pas nécessairement chercher à marquer des points politiques à l'Assemblée nationale.
Voilà. Yasmine Abdel Fadel, merci beaucoup.
Bon merci, Julie. À toi. À demain. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse avec Sophie Durocher et je vous dis à bientôt.
Cube Radio.